On s'en va à François Legault.
Bien, je veux commencer en vous disant que je comprends que la bataille qu'on mène contre le coronavirus est longue. Et puis, il faut être réaliste, ça va durer encore des semaines. Donc, évidemment, c'est important de garder le moral, mais je comprends aussi qu'il y a des personnes qui sont stressées, qui sont anxieuses, qui sont déprimées. Et le message que je veux vous lancer aujourd'hui, c'est que si vous avez ou vous sentez que vous êtes comme en train de perdre le contrôle, n'hésitez pas à aller consulter. Donc, c'est important, là, toutes les sortes de problèmes de santé mentale, c'est aussi important que les problèmes de santé physique. D'ailleurs, je veux en profiter, puis ça sera mes remerciements du jour. Je veux remercier tous les travailleurs sociaux qui aident, par exemple, dans les centres jeunesse, mais aussi qui aident toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Je sais que mon épouse Isabelle appelle beaucoup d'intervenants. Lionel Carman me raconte des belles histoires. Il y en a qui font vraiment des miracles. Là. Donc, aujourd'hui, un énorme merci à tous nos travailleurs sociaux qui s'occupent des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Puis, si vous ne sentez pas bien, bien, je veux dire aux Québécois, là, il n'y a pas de gêne. C'est aussi important que la santé physique. Donc, n'hésitez pas. C'est presque normal dans la situation qu'on vit actuellement qu'il y ait plus de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Le bilan, malheureusement, on a aujourd'hui 3 nouveaux décès. Donc, on est maintenant à 25. Je veux, au nom des Québécois, offrir mes sincères condoléances aux familles des victimes. On a maintenant 3430 cas confirmés. C'est une augmentation de 590. On a 235 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 43. Mais on a 78 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de seulement 6. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Moins d'hospitalisation qu'on pourrait prévoir, moins de personnes aux soins intensifs. Donc, ça veut dire clairement, là, notre réseau de la santé est sous contrôle, puis il y a une bonne marge de manœuvre pour la suite des choses. Bon, un mot aujourd'hui, je reviens sur les équipements de précaution. Donc, masque N95, masque de procédure, les gants, les blouses. Je veux envoyer un message, là, tout le monde, tous les pays, tous les États actuellement essaient de placer des commandes pour ces équipements-là de précaution. Donc, on n'est pas différent des autres, on est correct à court terme, mais si la courbe s'étire, tout le monde va en avoir besoin de plus et là, on suit les commandes. Quelles sont les commandes qui sont confirmées? Quelles sont les commandes qui ne sont pas confirmées? Ils rendent du matériel à tous les jours, mais je veux dire à tout le personnel du réseau de la santé, mais aussi ceux qui font de la sécurité, ceux qui sont à l'extérieur du réseau, c'est important, si ce n'est pas nécessaire, d'utiliser cet équipement-là, de ne pas l'utiliser. Donc, le garder pour ceux et celles qui en ont vraiment besoin. Comme d'autres pays le regardent actuellement, on regarde aussi pour que les masques N95 puissent être réutilisés plusieurs fois après avoir été désinfectés. Ça existe, ça se fait à certains endroits. Évidemment, on n'est pas différent des autres, donc on est en train de regarder ce qu'il faut faire, le lavage des masques qui sera nécessaire pour qu'on puisse les réutiliser plusieurs fois. On a aussi des discussions avancées avec plusieurs entreprises québécoises pour fabriquer les masques, les blouses, les gants. Je sais qu'il y a des entreprises québécoises actuellement qui travaillent jour et nuit là-dessus. Donc, je veux les remercier. C'est possible dans les prochains mois qu'on ait besoin d'eux autres. Donc, on essaye de mettre, évidemment, des dates de livraison le plus rapidement possible. Mais on n'est pas différent des autres sur les équipements. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas les gaspiller, de ne pas les utiliser quand ce n'est pas absolument nécessaire. Bon, un autre point sur lequel on s'est penché au cours des dernières heures, c'est tout le personnel qui est dans les commerces qui donne des services essentiels. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont travaillé 7 jours sur 7, commencent à être fatigués. Donc, j'annonce aujourd'hui que pour tout le mois d'avril, les commerces vont être fermés le dimanche. L'idée, c'est de reposer les employés. Donc, tous les commerces vont devoir fermer, sauf les stations-service, les dépanneurs, les pharmacies et les commandes à emporter dans les restaurants. Donc, ça veut dire nos grosses épiceries, par exemple, là, on veut que les employés prennent du repos. Donc, je pense que ça va être bon pour tout le monde, là, que tous les dimanches d'avril, les épiceries seront fermées. Bon, autre grande priorité, on le répète depuis le début, toute la situation dans les résidences de personnes âgées, nos aînés. Marguerite Blais est en contact avec les directions de tous ces établissements. On annonce aujourd'hui qu'on ajoute un budget de 133 millions de dollars, un budget ponctuel pour la durée de la crise. Et l'idée, l'objectif, c'est de mieux protéger les résidents, puis mieux protéger aussi le personnel qui travaille dans ces résidences. Je comprends que quand il y a des personnes d'infectées, ça peut être inquiétant, donc il faut se protéger, il faut suivre les procédures, mais j'en profite aussi pour dire merci à tout le personnel dans les résidences de personnes âgées. Donc, je termine en répétant les trois grandes priorités de notre plan. On ne sort pas de la maison, sauf si c'est absolument nécessaire. Quand on sort, si on a besoin de sortir, on reste toujours à au moins 2 mètres des autres personnes. Et dès qu'on rentre à la maison, on se lave les mains pendant 20 secondes avec du savon. C'est important de respecter les consignes. Il y a des Québécois, des Québécoises là, pour qui leur vie est en jeu. Là. Donc, selon que les Québécois vont ou non respecter les consignes, il y a des conséquences graves. Là. Donc, je vous demande tout le monde, puis je compte sur tous les Québécois pour respecter les consignes partout. Merci.
Maintenant, quelques mots en anglais.
Oui.
C'était François Legault. Donc, Julie-Christine, ça, c'est la nouvelle. Bon, il y a les décès, malheureusement, 3 décès de plus. Mais il y a aussi la nouvelle concernant les commerces fermés le dimanche.
On pense surtout aux épiceries, parce qu'il y a des exceptions, mais on a décidé là, pour permettre aux gens là, de se reposer un peu. On sait qu'ils travaillent énormément là, depuis 3 semaines.
C'est fou.
Éric Laflèche du groupe Métro l'a répété, on l'a entendu sur diverses émissions, indiquait qu'il y avait une pression énorme sur les employés. Il manquait déjà d'employés avant la crise.
Ouais.
Et on manque de monde. Alors, on a décidé le dimanche, surtout, là, c'est les épiceries, parce que les stations service, les dépanneurs, les pharmacies vont demeurer ouvertes, tout comme les commandes à emporter dans les restaurants.
Ouais.
Alors, on parle principalement, parce qu'il ne reste plus grand-chose d'ouvert, on s'entend, là. On parle principalement des épiceries qui, tous les dimanches du mois d'avril, seront fermées pour permettre aux employés de se reposer, permettre aussi de remplir les tablettes.
J'allais dire, parce qu'en fin de semaine, tu vois, il manquait des œufs, là. Manquait dans le supermarché où on fait notre commande, là. Fait que tu voyais là qu'il y a des petits coins dégarnis. On s'en va à la période des questions.
Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Comme vous le savez, il y a les primes pour préposés bénéficiaires, psychologues du réseau, électriciens, plombiers qui prennent fin aujourd'hui. Les syndicats donc demandent une prime ange gardien. Oui ou non? Est-ce que les primes seront prolongées au-delà du 1er avril?
Bien, ce qu'on voudrait, idéalement même, c'est de les bonifier. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des primes pour les préposés aux bénéficiaires qui ont des bas salaire. Donc, je vais laisser les négociations se faire à la table, mais ce qu'on voudrait, c'est d'avoir ces primes-là, donc d'améliorer le salaire des préposés aux bénéficiaires pour les 3 prochaines années, qu'il n'y ait pas d'inquiétude dans 6 mois. Est-ce que c'est juste des mesures temporaires? Il faut garder notre monde et puis il va falloir que notre monde reste à long terme dans le réseau de la santé.
Par contre, vous êtes en train de dire aux gens qui actuellement travaillent sur la ligne de front qu'à partir de la semaine prochaine, ils n'auront plus de primes ou ils la verront plus sur leur chèque de paye.
Ce n'est pas ce que je dis. Là, ce que je souhaite, c'est que dans les prochains jours, on soit capable de bonifier ces primes-là, qu'on soit capable même, dans certains cas, les inclure dans les salaires des préposés aux bénéficiaires. Donc, on l'a dit depuis des mois, on veut améliorer le salaire des préposés aux bénéficiaires.
Maintenant, pour Patrick Belle-Rose, le Journal de Québec.
Bonjour à tous, M. Legault. Au début de la crise, vous avez mentionné qu'il y aurait des entreprises québécoises qui pourraient être sollicitées pour créer de l'équipement, des masques, des jaquettes, etc., etc. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce que c'est plus compliqué que prévu ou est-ce que c'est en cours? Et aussi, qu'est-ce qui arrive avec les millions de masques N95 attendus de la Chine dont on parlait récemment?
D'abord, non. Ce qu'on veut avec les entreprises québécoises, au contraire, je veux les remercier pour leur collaboration. Ce qu'on essaye de faire, c'est que les livraisons commencent dans quelques semaines plutôt que de commencer dans quelques mois. On a des discussions, on a du monde qui travaille, on aide dans certains cas à financer la recherche, la production de prototypes. Bon, des fois, il faut avoir du matériel qui, lui aussi, vient de Chine. Donc, c'est tout ça qui a lieu. Puis, pour ce qui est des masques N95, il en vient d'un peu partout dans le monde. Il y a des livraisons qui sont prévues pour entrer dans les prochains jours. Mais faut être certain d'en avoir pour quand on va atteindre le pic dans quelques semaines.
Question pour Mme McCann. On voyait ce matin des chirurgies, des traitements qui sont reportés, certains moins urgents comme les chirurgies de la hanche, mais aussi des traitements comme mastectomie pour des femmes qui ont le cancer du sein. Pouvez-vous expliquer pourquoi c'est nécessaire présentement de reporter des chirurgies alors que les hôpitaux ne sont pas nécessairement bondés pour l'instant?
Oui. Écoutez, d'abord, ce que je veux dire, c'est que ces décisions-là ne sont pas prises à la légère. Hein? C'est un comité scientifique qui existe au ministère, mais qui existe aussi dans chacun des établissements qui prend ces décisions à la lumière de vraiment des informations cliniques solides. Le Collège des médecins est impliqué, les associations de spécialistes qui sont concernées sont impliquées aussi. Alors, c'est temporaire. Et évidemment, on fait ça parce qu'on doit absolument libérer des lits, d'abord et avant tout, libérer du personnel aussi. Vous savez, notre grand enjeu, là, c'est d'avoir le personnel suffisant, notamment pour les lits de soins intensifs qu'on va ouvrir. On va en ouvrir davantage, là. Il y en a déjà 500 qui sont libérés, puis on va en ouvrir 500 de plus parce qu'il faut voir venir le pic et il va falloir qu'on ait le personnel. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce délestage temporaire et ça ne met pas à risque les personnes. C'est bien évalué par un comité scientifique. Et il y a aussi la question d'équipement de protection aussi, hein, qu'il faut vraiment utiliser de façon très, très judicieuse. Alors, moi, je réitère que ces décisions sont prises avec un comité scientifique, l'implication des spécialistes, l'implication du Collège des médecins également.
On poursuit avec.
Juste pour compléter, j'ai posé effectivement moi aussi la question en me disant, bien, aujourd'hui, il semble avoir de l'espace, pourquoi on n'en ferait pas plus? Il faut quand même tenir compte que la durée de séjour moyenne pour les chirurgies électives, c'est 4 jours. Quelle serait la situation dans 4 jours? Bien, c'est pour ça là, qu'on aime mieux prévenir.
Olivier Bossé, Le Soleil.
Monsieur Legault, est-ce que la crise actuelle ne prouve pas que le salaire minimum devrait être à 15 ou même 16 $?
Bien, écoutez, il y a une norme là qui est pas mal respectée partout dans le monde. Le salaire minimum devrait être à peu près à 50 % du salaire moyen pour garder des incitatifs là sur certains emplois. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis un an et demi. C'est ce qu'on va continuer de faire. Maintenant, quel sera le salaire moyen dans 6 mois? C'est difficile, mais il faut être prudent. Là, il y a certains emplois dans certaines régions, certains emplois pour les étudiants où si on augmentait trop rapidement le salaire minimum, pourrait avoir des impacts négatifs. Évidemment, il y a une situation spéciale, là, comme on vous a dit, avec le 2 000 $ par mois qui est offert par le gouvernement fédéral. Le ministre des Finances est en train de travailler à annoncer un programme qui va faire que les gens qui travaillent dans les services essentiels vont gagner au moins 2 000 $.
Docteur Arruda, il y a une situation particulière en Estrie, à la santé publique, la direction de la santé publique en Estrie, une des régions les plus touchées et qui, en plus, perd des soldats, des gens. Est-ce qu'il y a une intervention particulière qui est prévue, spécifique pour l'Estrie? Parce que là,
dans les faits, il faut comprendre que l'Estrie s'organise, si vous me permettez, et demande de l'aide au nécessaire. Heureusement, comme la majorité des gens aussi, sont pas nécessairement hospitalisés parce qu'ils sont quand même des personnes relativement jeunes ou en contact. Ils peuvent être en télétravail, mais actuellement, l'Estrie est en mesure, là, avec de l'aide de d'autres, puis avec de la mobilisation de d'autres ressources, d'offrir le service de cas et d'enquête comme tel. Dr Poirier suit la situation de très près. On est en discussion avec lui régulièrement. C'est une histoire, en fin de compte, comme il peut en avoir ailleurs, de personnes qui sont un peu symptomatiques, qui ne réalisent pas qu'ils sont porteurs de COVID-19 et qui, à un moment donné, où on commence à s'installer, faire des personnes qui voyagent dans la même voiture, etc., etc. Donc, actuellement, il n'y a pas de problème avec l'Estrie en termes de services pour faire les cas et les enquêtes. S'il y en avait, on se mettrait à mobiliser avec d'autres régions pour faire le travail.
Question maintenant pour Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. D'abord, hier, M. Arruda, vous avez parlé de l'aplanissement de la fameuse courbe. Est-ce qu'en aplanissant la courbe, j'imagine que ça doit prolonger la période où, bien sûr, il va y avoir un effet là, sur la population. Est-ce que ça... jusqu'où est-ce que vos modèles amène les mesures de confinement qu'on connaît maintenant? On sait qu'il y a une date qu'on a déjà évoquée pour le retour en classe qui était le 1er mai. On a des doutes maintenant qu'on puisse retourner en classe à ce moment-là. Mais est-ce que ça veut dire que la période de confinement va être plus longue que ce à quoi on s'attendait au départ?
Pas nécessairement, si vous me permettez. Je voudrais vous dire aussi, là, c'est qu'il y a chaque jour, on réévalue la situation pour voir le succès. Faut voir aussi que même si on a pris des mesures, la population québécoise, tout dépendamment comment elle les a appliquées, ça va avoir un effet sur l'efficacité des mesures. Donc, à la fois, c'est ce qu'on fait, nous, en santé publique, prescrit. Et là, faut voir les éléments. Je sais pas si vous avez remarqué, on est passé d'une période beaucoup plus à convaincre à maintenant arriver à un certain niveau de contrainte pour justement éviter des foyers qui vont maintenir des choses. Ce que je peux vous dire actuellement, c'est que on est en situation qui est en contrôle. On a, comme prévu, une capacité de traiter les personnes si ça l'augmentait. On a augmenté de façon significative les tests qu'on fait. On était pas mal en arrière. On est revenu au-dessus même. Puis je ne veux pas faire de comparaison, mais en termes de taux, par 100 000 personnes de tests, on est en train de monter dans l'échelle internationale. À ma connaissance, on est rendu les sixièmes par... La première est l'Islande, la Norvège, l'Alberta, New York, puis Québec en cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Dans les faits, donc, on est à 808 tests par 100 000 personnes de fait actuellement. Donc, on teste. En testant beaucoup, on teste aussi des gens qui peut-être dans un autre contexte, n'auraient pas été testés parce qu'ils sont un peu symptomatiques. Ce qui est très important, c'est de voir le taux d'hospitalisation et de cas sévères. Donc, je vous dirais là, que ces indicateurs-là sont sans être... Il ne faut pas arrêter les choses. Il ne faut surtout pas que les gens arrêtent les consignes. On les resserre, justement. Puis on fait maintenant une analyse épidémiologique de chacun des sous-territoires pour décider s'il y a des confinements particuliers à faire ou pas. Fait que ce que je peux vous dire, sans rentrer dans des scénarios puis des chiffres qui sont actuellement, c'est que par rapport à les actions qu'on a mises en place, on observe les effets et on ne peut pas comparer nécessairement d'une région à l'autre à cause à la fois du nombre de tests, mais aussi à qui ils sont faits.
Monsieur Legault, c'est sûr, juste une précision sur ce que vous avez dit tout à l'heure, les épiceries qui vont être fermées le dimanche. Est-ce que ça ne risque pas de concentrer davantage de gens en semaine, étant donné qu'on réduit la plage d'ouverture de ces commerces-là?
Non, je pense pas. Je pense qu'on ne peut pas demander d'avoir les pleins services 7 jours sur 7 pendant des semaines et des semaines, là. Donc, je pense que c'est possible en ayant des services sur 6 jours. Bon, évidemment, les services très essentiels comme les pharmacies ou les dépanneurs, mais ça reste ouvert. Je pense que ça va permettre de prendre un repos aux employés des épiceries puis revenir encore plus en forme le lundi matin.
Tommy Chouinard, La Presse.
Bonjour à tout le monde. Monsieur le Premier ministre, d'abord, est-ce que vous écartez l'idée d'imposer les salaires et conditions de travail à vos 500 000 employés?
Il n'est pas question d'imposer des conditions de travail. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir une entente avec les syndicats. C'est pas le temps d'être en guerre avec qui que ce soit. Mais évidemment, il faut être deux pour danser. Donc, il faut que les deux parties soient capables de convenir d'une entente. Moi, je pense que c'est souhaitable qu'est une entente, entre autres pour bonifier le salaire des préposés aux bénéficiaires, mais aussi éviter que ça vienne jouer, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an. On ne sait pas pour combien de temps on est dans la crise, là.
Maintenant, la situation aux États-Unis évolue rapidement et pas nécessairement pour le mieux. Est-ce que vous avez quelques signaux que ce soit ou avez-vous des inquiétudes quant à la chaîne d'approvisionnement de tout ça, alimentaire ou autre? Et avez-vous pris des mesures pour peut-être compenser ou prévoir ce genre de situation-là?
Non, on n'a pas d'inquiétude sur la chaîne alimentaire. Point en de mettre en place de fortes mesures pour cet été pour aider nos agriculteurs. Donc, on veut essayer d'annoncer une espèce de bonus pour les employés, pour les personnes qui accepteront d'aller travailler dans les champs. Je pense aussi que tout ce qu'on appelle l'achat local de produits locaux, bien, on va en faire beaucoup la promotion dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, il faut aller aider nos agriculteurs et il faudra effectivement avoir plus de produits qui viennent d'ici plutôt que des États-Unis. Mais il faut comprendre là, qu'on fait venir beaucoup de produits des États-Unis l'hiver, quand il arrive l'été. On produit beaucoup. Bon, là, il y a le défi des travailleurs étrangers, mais là, on va avoir de la main-d'œuvre qui va être disponible. Il faut maintenant mettre des incitatifs pour qu'ils choisissent d'aller travailler dans nos champs.
Merci. Prochaine question. Alain Laforêt, TVA.
Je vais rebondir là-dessus, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous préparez les Québécois à une plus longue période de confinement, compte tenu que vous venez de dire, on ne sait pas combien de temps va durer cette crise-là?
Oui. Bien, là, pour l'instant, ce qu'on a dit, c'est que toutes les entreprises sont fermées jusqu'au 13 avril. Ça sera réévalué d'ici le 13 avril. Il faut comprendre, là, que si on accepte quelques États aux États-Unis, on est à peu près le seul État qui a fermé les entreprises autres que les commerces. Donc, j'inclus là-dedans les entreprises manufacturières, les chantiers de construction, etc. On a aussi annoncé jusqu'à présent que les écoles resteraient fermées jusqu'au 1er mai. Bien, ça reste encore l'objectif, mais on réévalue, puis on va réévaluer au cours des prochains jours, des prochaines semaines, la situation.
Aborder d'entrée de jeu là, un sujet qu'on a discuté souvent, le fameux équipement, particulièrement les masques de protection. Selon vos estimations, particulièrement pour Montréal, vous en avez pour combien de temps? Si vous demandez au personnel et vous regardez l'optique de les nettoyer, c'est qu'on n'est pas loin de la rupture, là.
D'abord, on ne regarde pas ça région par région parce que nous, on s'assure que toutes les régions aient, en proportion de leur population puis des besoins dans les hôpitaux, suffisamment d'équipement. Donc, s'il y a un problème, et ça sera un problème partout, mais ce ne sera pas un problème dans certaines régions. On a des équipements pour le court terme. Maintenant, il y a des commandes qui sont prévues pour entrer au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Est-ce que ces commandes-là seront toutes confirmées? C'est pour ça qu'on ne prend pas de chance, puis on prépare un plan B avec des entreprises québécoises qui pourraient, bon, même si habituellement on ne fabrique pas des masques ou des blouses ou des gants, bien, pourraient le faire là, pour cette situation qui est exceptionnelle.
Moi, j'aimerais ajouter là-dessus, Monsieur le Premier ministre, sur la question des masques. D'ailleurs, j'ai encore parlé aux présidents-directeurs généraux des établissements là, juste ce matin. On confirme que les opérations se sont bonifiées. C'est-à-dire que, vous savez, je vous disais la semaine passée, les établissements n'ont pas été habitués là, à une situation comme on vit actuellement. Il y avait les masques à côté, là, puis bon. Alors, ce n'est plus le cas maintenant. Il faut protéger hein, les masques. Alors, les établissements se sont organisés pour que les opérations d'approvisionnement se fassent de façon optimale. Ça, c'est une première chose. Alors, c'est davantage stabilisé là, au fil des jours. L'autre chose c'est qu'il faut vraiment insister, c'est l'utilisation judicieuse des masques, que ce soit les N95 ou les masques de procédure. Alors, il y a une vidéo là, qui va sortir cet après-midi ou plus tard demain qui explique exactement comment utiliser ces masques-là. Déjà, les procédures sont en place, mais une vidéo, c'est toujours aidant. Mais moi, ce que je veux dire, là, c'est que il faut vraiment s'assurer que les masques, par exemple N95, ce soit pour les bons intervenants dans les bonnes procédures. je ne pense pas que c'est normal qu'un gardien de sécurité porte un N95. Comprenez? Ça, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres aussi. Je sais que les gens qui sont dans le maintien à domicile, les CHSLD, la protection de la jeunesse, sont préoccupés. Ils ont ce qu'il faut, mais il faut absolument qu'ils les utilisent dans les bonnes circonstances. Et c'est pour ça qu'on revoit continuellement les processus pour bien utiliser ces masques-là dans toutes les sphères d'activité du réseau. C'est la condition qu'on va en avoir suffisamment pour la suite des choses. Il faut vraiment utiliser ces masques-là au bon endroit par les bonnes personnes.
Prochaine question, Marie-Michelle Sioui, Le Devoir.
Bonjour à tous. Vous nous dites que ça va mieux que prévu. On n'a pas le choix de vous croire sur parole puisque vous ne donnez pas accès à ce qui était prévu, au fameux scénario. Reste que la moitié des cas confirmés au Canada sont au Québec. Pourquoi?
Je l'ai expliqué plusieurs fois, je vais le répéter. Les stratégies de test peuvent être différentes. OK? Puis là, pour être en mesure de répondre à votre question puis de le prouver, il faudrait que j'aille exactement à la stratégie de test qui est utilisée sur le terrain. Pas nécessairement ce qui est publié sur le web, parce qu'il y a des informations qui ne sont pas toujours nécessairement faciles à obtenir. On fait beaucoup plus de tests maintenant. On a dépassé de beaucoup l'Ontario pour une population qui est deux fois plus que nous, sinon plus. Donc, en augmentant de façon significative le nombre de tests qu'on fait, on détecte des cas qui sont des cas souvent moins sévères, parce qu'on en fait plus. Dès que les gens ont un peu de symptômes, on en fait plus. Ce qu'il faut comparer, ce sont nos taux d'hospitalisation. Puis est-ce qu'on a des cas sévères? Parce que dans les faits, il n'y a aucun pays, à part ceux qui ont eu des quantités phénoménales, qui vont tester tout le monde. Hein, il faut commencer à avoir des symptômes. Là, c'est ça, plus on va avancer dans la saison, moins il va y avoir de rhume, de grippe associée à l'influenza, plus ça va être probablement du coronavirus. Donc, c'est vrai qu'en nombre absolu, on a plus de cas. Il faut comparer maintenant avec les nombres par taux. Puis en plus, il faut comprendre, est-ce que leur stratégie est d'aller chercher tous les... Il y a probablement, puis là, comme je vous dis, c'est des hypothèses, et c'est pas rien que moi qui le fais, c'est analysé aussi avec des experts, il y a probablement des gens qui auraient été testés avec notre stratégie actuellement en Ontario qui ne le sont pas.
Oui, M. Legault, quelle est votre stratégie pour rejoindre les communautés culturelles? Vous êtes auparavant appuyé sur vos collègues du Parti libéral pour les rejoindre. Est-ce que vous allez répéter l'expérience ou avez-vous songé à de nouvelles stratégies?
Bien, d'abord, il y a des consignes qui sont données dans plusieurs langues à Montréal. Bon, on sait qu'il y a certaines communautés qui sont plus touchées. Par exemple, la communauté juive. Donc, on a parlé avec les gens de chez CIJA. Le directeur de la santé publique a une rencontre aujourd'hui, le directeur de la santé publique des Laurentides avec la communauté juive orthodoxe de Boisbriand. Donc, on essaie cas par cas, quand il y a des situations, que ce soit à Côte-Saint-Luc, que ce soit à Boisbriand, d'intervenir puis de mettre en place rapidement toutes les mesures avec l'appui de la communauté. Jusqu'à présent, ça se passe très bien.
Alors, on continue à suivre ce point de presse pour vous. On va s'arrêter parce qu'au retour, je vous ai promis de prendre vos appels concernant l'aide financière à laquelle vous êtes supposé avoir droit en vertu des annonces qui ont été faites. Et honnêtement, on arrive à la fin du mois, là, et je sais qu'il y a de l'inquiétude. Fait que François Gagnon, qui a passé la fin de semaine à répondre à vos questions, reprend du service parce qu'il faut prendre le temps de vous répondre. Il y en a des inquiétudes, puis il faut essayer de répondre au meilleur de nos connaissances tout de suite après la pause. 790-9850, 98985 par texto, Drainville, A commercial, 985FM.ca. À tout de suite.